9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Grégoire Margoton.
Bonjour Philippe Mandel.
Vous êtes journaliste, commentateur du foot d'abord sur Canal et puis 5 ans sur TF1. Vous avez notamment commenté la victoire de la France à la dernière Coupe du Monde en Russie. Je le dis parce que c'est vous qui avez fait la plus grosse audience depuis quelques années de toute la télé française. Et là, une nouveauté.
C'est pas moi, c'est les Bleus.
Ah oui, évidemment. Oui. Vous êtes désormais sur la nouvelle chaîne du foot qui a aussi le nom d'une de vos émissions, Téléfoot, on va en reparler. Mais là, l'actu immédiate, vous allez partir en Croatie, c'est bien ça? Vous partez, vous commentez pas le match depuis Paris?
Non, avec le Covid. On part en Croatie avec Bichente Lizarazu.
Croatie-France, mercredi 14, c'est quoi l'enjeu?
L'enjeu, c'est pas un match amical, déjà, c'était voilà la différence avec le match contre l'Ukraine cette semaine. C'est un match de Ligue des Nations, nouvelle compétition, etc. etc. C'est un match qui arrivera après le Portugal dimanche. Voilà, c'est un groupe qui est relevé, c'était la dernière finale de la Coupe du Monde, France-Croatie.
Donc c'est la revanche un peu?
Un tout petit peu, et puis ça va être la revanche pour les Croates, parce qu'ils ont été battus par la France il y a un mois, au mois de septembre. Et puis il y aura 10 000 spectateurs à Zagreb.
Ça allait être ma question.
Dans le stade Maximir, enfin on va peut-être retrouver un peu de parfum de l'ancien foot avant Covid. Là, donc un peu de pression.
Vous avez le masque,
c'est
la première fois. Vous allez la voir dans la cabine ou vous allez faire des cabines distanciées avec du plexiglas avec Bichente?
Pour l'instant on respecte les distanciations sociales, on fait effectivement des plateaux et notre commentaire à bien presque 2 mètres de distance.
Est-ce que rapidement, vous pouvez expliquer aux gens ce qu'est l'UEFA National League? Je veux dire pourquoi, parce que quand ça passait sur la chaîne L'Équipe, je me souviens qu'Estelle Denis, qu'on salue, a eu un peu de mal à expliquer le principe.
Écoutez, c'est tout. Je vais simplifier la chose. Il y avait plein de matchs amicaux avant, quelques compétitions officielles. On se qualifiait pour les Euros, on se qualifiait pour des Coupes du Monde. Et au milieu de tout ça, pendant l'année, il y avait des matchs amicaux. En gros, on a remplacé ces matchs amicaux par une compétition au niveau européen avec différentes poules. Voilà, on est dans une poule de 4 avec le Portugal, avec la Croatie et la Suède. Et on fait des matchs qui sont plus des matchs amicaux, qui ont un tout petit enjeu. Oui, il y a un enjeu, il y a une coupe à gagner au bout au mois de juin.
Gros match aussi pour moi qui aime le foot. Angleterre-Belgique à Wembley, vous y serez?
Là, on n'y sera pas, non, parce que aller commenter en Angleterre, j'ai pas envie de me retrouver en quatorzaine, donc on sera en cabine avec Bichente.
Ah, vous serez au son, mais vous serez pas à l'image.
Voilà.
Et là aussi, gros enjeu.
Oui, là, c'est magnifique. De toute façon, Angleterre-Belgique, il n'y a pas besoin de présenter cette affiche.
Vous avez aimé France-Ukraine ou est-ce que c'était trop facile 7-1 avec l'équipe des remplaçants? Ils étaient tous malades.
Philippe, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai commenté quand même pas mal de matchs depuis la fin du mois d'août, entre des demi-finales de Ligue des Champions, des finales en cabine ou le retour de la Ligue 1 sur Téléfoot, la chaîne. Et j'ai pas eu beaucoup d'émotions, pour tout vous dire, dans tous ces matchs-là. Enfin, j'ai eu un peu d'émotions mercredi soir au Stade de France, de voir un gamin de 17 ans marqué, de voir Giroud marquer son 41e but comme Platini avec une magnifique frappe de très bons joueurs de foot. Oui, j'ai eu un peu d'émotion, Et puis c'est un match, les Ukrainiens ont fait ce qu'ils pouvaient, évidemment.
Et je précise pourquoi vous précisez que c'était une très belle frappe et un très beau but.
Parce que
Giroud, il se fait tout le temps allumer sur les réseaux sociaux.
Il se fera toujours allumer sur une partie des réseaux sociaux et il pourra se retourner dans quelques années sur sa carrière. Il n'est pas Platini, il n'est pas Zinedine Zidane, il est Olivier Giroud et c'est déjà pas mal.
Et la polémique vient de ce que certains estiment qu'il a piqué la place de Benzema et donc la polémique n'est pas prête de s'arrêter. C'est pas notre sujet. Vous avez failli nous faire une pavard.
L'anglais, Martial, avec le bon contrôle d'Olivier Giroud. Oui. Et il y a Lucas Digne, il y aura du monde dans la sphère de réparation. Réussir le centre, il va chercher le second poteau avec cette reprise de Benjamin Pavard.
Ouais, et pas de second poteau Pavard cette fois-ci.
Ça s'appelle coitus interruptus, non? C'est ce genre de choses.
Je n'osais pas le dire, heureusement que c'est vous qui l'avez dit.
Je l'ai dit.
Pour qui ne connaît pas, raconter ce que c'était la première pavard. Énorme patate.
C'est une énorme patate en huitième de finale de la Coupe du Monde en Russie. L'Argentine mène 2-1 et Pavard sur un centre de Lucas reprend et au second poteau et égalise pour la France. Et à ce moment-là, le destin des Bleus, sans doute, bascule du bon côté.
Et vos cordes vocales ont failli disparaître cet instant-là. Vous présentez également l'émission Téléfoot, Grégoire Margoton, c'est le dimanche matin. L'an passé, les audiences ont un peu baissé, du moins par rapport à la saison précédente. Vous avez remanié l'émission. La base de l'émission, maintenant, sont plus les reportages que l'actu. Est-ce que ça a porté ses fruits? Comment ça se passe au niveau audience?
Eh bien, ça se passe comme tout le monde, c'est-à-dire pas très bien depuis le mois d'août. Et ça s'est beaucoup mieux passé dimanche dernier. On était dans l'attente d'un signe de nos fidèles téléspectateurs. Le signe est arrivé dimanche dernier. Donc, on va continuer sur cette nouvelle organisation et ce nouveau schéma d'émission avec l'équipe de Marc Ambrosiano. Ouais. On a remis des codes TF1 un peu à l'honneur dans Téléfoot. Il y a une première partie actu, une deuxième partie mag avec des gronds, des larges sujets. Vous parlez d'Olivier Giroud. Dimanche, je vous donne rendez-vous pour un grand format de 12-15 minutes avec Olivier Giroud qui revoit toute sa vie, qui revoit toute sa carrière et vous serez très très ému. Donc ça va mieux au Téléfoot depuis dimanche, on sourit à nouveau.
C'est quoi des codes TF1?
Les codes TF1, c'est des codes du traitement de l'actualité qu'on n'avait pas à Téléfoot. Oui, il y a l'actu dans le 20h, mais ensuite il y a un grand format où il y a le mag. C'est la même chose avec les émissions de Nikos. Voilà, c'est des choses bien identifiées pour les téléspectateurs de TF1 et qu'on essaye petit à petit de faire rentrer dans l'ADN de Téléfoot.
Alors on en parle comme ça sérieusement, mais il faut dire que ça va quand même bien. Vous avez le leadership, comme on dit, avec Automoto sur les magazines sportifs. Téléfoot, c'était dimanche dernier 936 000 téléspectateurs, 12,2% de part de marché, mais le service de presse de TF1 a communiqué sur la cible des hommes de moins de 50 ans. Là, vous passez de 12,2 à 19%. C'est votre cible ?
Je ne sais pas si c'est pas à moi de me poser ces questions.
Où est-ce que c'est le chiffre qui vous arrange ? Où est-ce que vous vous dites, tiens, on parle aux hommes de moins de 50 ans ?
Moi, j'ai passé 25 ans de ma vie, ma première vie professionnelle, à ne pas regarder les chiffres et regarder le nombre d'abonnés. Alors, combien il y a d'abonnés aujourd'hui, combien il y a de chiffres ? Moi, je regarde effectivement quand Téléfoot est à moins de 800 000, je suis triste le lundi matin.
Ouais.
Je me dis, mais je regarde et je suis conscient qu'on fait des bonnes émissions. On est tous contents dans cette rédaction de faire des meilleures émissions que la saison passée. Et quand je vois un peu plus de 900 000 et quelques pourcents qui montent et qui grattent, je suis très heureux. Et je ne vais pas vous parler, il n'y a pas de concurrence, mais les autres émissions de sport, de foot, souffrent énormément en ce début de saison. C'est pas une saison comme les autres, vous l'aurez remarqué, Philippe.
Ah ça, j'ai bien remarqué, et surtout pour le Canal Football Club qu'on salue, qui sont passés du dimanche au samedi, c'est très
compliqué.
Difficile pour eux. Vous restez avec nous, Grégoire Margoton.
Oui.
Plein de nouveautés encore pour vous, et donc pour nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Grégoire Margoton, qui commente le football désormais sur TF1, qui présente l'émission Téléfoot, c'est le dimanche sur TF1. Et nouveauté sur une autre chaîne, car vous êtes désormais sur la nouvelle chaîne du foot, qui a également le nom de votre émission Téléfoot, qui diffuse notamment les matchs du championnat. Pas la totalité, il en reste encore un petit peu sur Canal+, mais 85% c'est chez vous, dont les meilleures affiches. Vous êtes en duo, pas sur chaque match évidemment, avec Bichente Lizarazu. D'abord, quel match et comment ça se passe ? Quel match ?
Les 20 plus belles affiches de la saison, donc ce qu'on appelle le top 10. Par exemple, Paris Saint-Germain-OM en faisait partie. Dans 13 jours, je serai à Lille-Lens, je serai à Lyon-Saint-Etienne le mi-novembre. Voilà, on fait un week-end sur deux ou deux week-ends sur trois avec Bichente Lizarazu.
L'ensemble, Lille-Lens, c'est le derby du Nord.
C'est
et
magnifique.
Saint-Etienne.
Lyon, c'est le derby.
Voilà, c'est les pneus crevés voilà. À 80 km, une ville l'une de l'autre. Comment ça marche les audiences ?
J'en ai aucune idée. Je pense que ça sera mesuré d'ici quelques mois. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça intéresse sans doute les responsables de la chaîne. Moi, je suis observateur de loin. J'essaie de faire de mon mieux. Je suis un des employés. Je trouve qu'il y a une très belle rédaction de journalistes, de consultants que je connaissais souvent et qui ont beaucoup, beaucoup de talent, qui viennent de Bein, qui viennent de Canal, qui viennent de partout. Voilà, je leur souhaite le meilleur et je leur apporte ce que je peux leur apporter tous les dimanches soirs, certains dimanches soirs à l'antenne.
C'est évidemment pas facile de lancer une chaîne cryptée. On en sait quelque chose
pendant
tous les deux.
Pendant une pandémie
et pendant
un confinement, absolument.
Et c'est d'autant plus difficile pour Mediapro de se lancer qu'existe maintenant 4 chaînes. C'est-à-dire que chaque fois que vous lancez une nouvelle chaîne, c'est une chaîne de plus. Donc si les gens ont déjà 3 abonnements, il faut en prendre un 4e. Et on sait qu'il y a un énorme frein psychologique. Selon les chiffres qui circulent, il n'y a rien d'officiel, ce sont les chiffres qui circulent dans le milieu. Il n'y a pour l'instant que 400 000 abonnés au lieu du million prévu à cette date. Est-ce que vous avez d'autres chiffres ?
J'ai vu 200 000, j'ai vu 800 000.
Moi j'ai vu 400 000, c'était dans l'équipe hier.
Dans l'équipe hier, 400 000. On a tous vu des différents chiffres. Je pense que Bein, la première année, a fait un million, un peu moins d'un million au bout d'un an. On se retrouve au mois de septembre. Elle a que 2 mois, cette chaîne. On verra. On verra. Mais elle arrive dans une situation, c'est vrai, très compliquée. C'est pas facile. J'aime pas ce terme-là de vendre un produit, de vendre des matchs supposément de haut niveau, sans public déjà et sans ambiance. C'est compliqué.
Justement, j'allais vous en parler. Quel effet ça fait de commenter dans des stades vides ou presque vides ? Est-ce que vous-même, vous avez ce que nous avons en tant que téléspectateurs, l'ambiance sonore
j'ai le stade et je pensais, comme vous, vivre très bien le fait de retourner dans un stade. Et je suis très heureux de revoir des réalisateurs, des caméramans que je connais depuis très longtemps, à époque Canal+. Mais quand j'arrive à mon poste commentateur, j'ai 10 minutes de dépression à chaque match. Voilà. De me retrouver dans un stade vide, c'est absolument terrible. Donc oui, je ne commande pas de la même manière, on ne commande pas de la même manière. Il y a un but de Kamavinga ou de je ne sais pas qui, de Dimitri Payet. On se sent obligé de parler tout le temps parce qu'il faut meubler, parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Alors que quand un stade explose, on peut se taire pendant 10 secondes, profiter. On ne commande pas de la même manière. Donc oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas la meilleure époque de mon métier et du rôle de commentateur, c'est sûr.
Avouer 10 minutes de déprime au micro,
je
c'est
remonte
d'une
après,
grande
je
franchise.
Souris. Oui, ouais. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas au micro. Mais quand j'arrive au post-com une heure ou deux heures avant et que je sais que ce stade va rester désespérément vide.
Coup de tonnerre hier, Mediapro qui détient désormais les droits de la Ligue 1 depuis cette saison et pour 4 ans, met en cause le contrat avec la Ligue. Le président Jaume Roures refuse d'honorer l'échéance du 6 octobre. 172 millions quand même, c'est pas rien. Et souhaite renégocier les termes du contrat avec la Ligue. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander des infos sur des tractations.
Non, je ne m'appelle ni Raoul Merourès, ni Vincent Labrune.
Voilà, et c'est en cours, et c'est secret. Mais j'aurais votre sentiment, est-ce que le Covid a changé à ce point l'environnement du football qu'il faille tout revoir ?
Je ne sais pas s'il faut tout revoir. Le Covid a changé l'économie des clubs, qui ont effectivement désespérément besoin d'argent. Et le Covid a changé le spectacle proposé à ceux qui s'abonnent et qui payent tous les mois beaucoup d'argent pour différentes chaînes, pour regarder du football. C'est ça qui a changé. Après, je crois que dans d'autres pays, entre les détenteurs de droits et les diffuseurs, il y a eu des arrangements, des accords dans cette période différente. Le produit final ne ressemble pas à ce qu'il aurait pu être hors Covid. Voilà, peut-être que ces gens vont arriver à discuter entre eux. Je ne crois pas qu'il y ait de désengagement dans les propos de Raoul Merourès ou de Mediapro. Pour l'instant, ça ne discute pas. C'est peut-être le bon moment pour le faire. Ce n'est pas mon rôle de vous donner un avis là-dessus. Mais j'espère qu'ils vont discuter. C'est important pour le football français.
172 millions, déjà, on a envie de la récupérer. D'autant que la somme, je crois que c'est 800 à l'année. Chance pour vous-même. J'ai appris ça par les gens de Mediapro, qui étaient là, Julien Bergeau, le patron des rédactions. Vous êtes payé par TF1 et pas par Mediapro.
Je sais pas, j'ai pas encore signé de contrat. J'ai reçu un contrat hier et je vais le signer.
Peut-être, c'est pas vrai.
Mais peut-être, mais je suis prêté sans option d'achat, comme dirait un footballeur. Je suis salarié TF1, je suis pas salarié Mediapro. Éthiquement, je suis Mediapro quand je travaille avec eux et j'ai de très bons rapports avec eux. Je travaille avec Jean-Michel Roussier et sa rédaction et tous les collègues. Mais je suis TF1 et je reste TF1.
Deuxième grosse info de votre part, vous n'avez pas signé de contrat encore. Vous avez monté avec TF1, là vous avez un contrat à votre podcast, Club Margoton. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans un podcast que vous pouvez pas dire à la télé ?
Moi, rien. Moi, j'essaie d'être journaliste tout simplement dans ce podcast. Ceux qui me répondent, qui ont la gentillesse de me répondre, ont du temps. Vous avez malheureusement, Philippe, 10 minutes, un quart d'heure avec vos invités. Moi, dans un podcast avec Marie-Josée Pérec, avec Didier Deschamps ou bientôt d'autres, ou Martin Fourcade, j'ai une heure et quart. Marie-Josée Pérec, j'ai parlé avec elle 1h45. Voilà, ça fait deux épisodes et ça fait du temps pour eux et je crois qu'ils aiment ça, les grands sportifs.
Et avec Nicolas Karabatic ?
Ça a duré 55 minutes. J'ai pas fait un point de montage, comme on dit, de la première à la au dernier mot, tellement il est parfait ce garçon.
Pour l'avoir entendu, de lui-même, il vous a parlé de l'affaire des paris truqués, affaire qui lui a valu une condamnation pour escroquerie. Oui. 10 000 euros d'amende, confirmé en appel, 2 mois de prison avec sursis. Normalement, Nicolas Karabatic déteste parler de cette affaire. Vous aviez fait un deal avec lui ?
Même pas. C'est-à-dire qu'avant l'interview, avant ce podcast, c'était plus ou moins sous-entendu qu'on n'en parlerait pas. Et puis c'est lui qui y allait tout seul, voilà, parce que il l'a senti à ce moment-là. C'est loin derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant, pendant et surtout après la réaction de champion qu'a ce garçon. Voilà, c'est. Il a fait une erreur, sans doute. Ils ont fait collectivement une erreur. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu loin. Et surtout, sa carrière mérite que ce soit presque oublié, cette affaire.
Vous faites quoi pour travailler votre voix ? Vous avez vraiment arrêté de fumer ?
Bah oui. Bah depuis 3 ans et demi. Pourquoi ?
Mais que vous dites, la
il
plus
est
belle
tôt
voix.
Le matin. Il est tôt le matin.
C'est qui pour vous la plus belle voix ? C'est pas Sacomano.
C'est différent. Elle était belle, la voix de Sacomano.
Ah oui.
Non, c'est Sam Cooke, c'est pas Sacomano. Ça.
Exactement.
Ah oui.
C'est vous qui le dites, la plus belle voix.
Ah oui.
Moi, je pensais que c'était Margoton, pas du tout, c'est Sam Cooke.
Voix masculine, hein, parce qu'après des femmes qui chantent bien, il y en a eu tellement.
On n'a pas le temps, il faut rendre l'antenne.
Écoutez Sam Cooke, c'est important.
La prochaine fois que vous venez, on passera votre plus belle voix féminine préférée. Merci beaucoup, Grégoire Margoton.
Merci,
je rappelle,
Philippe.
Voici France, c'est mercredi et dimanche, Angleterre-Belgique, sur TF1, les deux. Merci d'avoir été avec nous.